Alors, parlant de souvenirs, mais c'est toujours actuel parce que ça existe toujours cet endroit, la Binerie Mont-Royal. Il n'y a pas juste des bines à la Binerie Mont-Royal.
Oh, pas du tout, pas du tout. Tenez-vous bien, je vais vous énumérer quelques choses, quelques plats au menu. Sandwich au porc frais et à la graisse de rôti.
J'adore.
Fèves au lard, des bines, maison, son maison cuite dans d'immenses fours. Rôti de porc, ragoût de boulette, pâté chinois, tourtière, soupe au pois, pudding chômeur, la Binerie Mont-Royal.
Mathieu s'en va là.
La Binerie Mont-Royal n'a jamais dérogé à sa mission d'offrir des repas québécois traditionnels. Si la Binerie a déménagé depuis décembre 2019, elle a conservé le même menu tout en offrant quelques nouveautés. Un article de Carole Anne D. Lebeau dans le Nostalgie hors série 2021. En 1938, le plateau Mont-Royal était un quartier populaire, peuplé de travailleurs canadiens français, mais aussi de différentes ethnies. Le 11 juin 1938, Joachim Lucier fait l'achat d'un petit local sur la rue Mont-Royal, à 100 mètres à l'ouest de la rue Saint-Denis, et fonde la Binerie Mont-Royal. Son frère Léonide, que tout le monde appelait Léo, lui donne un coup de main au départ. Léo deviendra propriétaire de la Binerie quelques années plus tard. Joachim Lucier voulait, en fondant son restaurant, perpétuer la cuisine traditionnelle québécoise. Très rapidement, la Binerie connaîtra un vif succès grâce à son menu, mais aussi à ses prix très abordables pour qui voulait manger un repas consistant le midi ou encore déjeuner dans la pure tradition québécoise. Le 13 juillet 1966, Léo achète le restaurant de son frère. Puis, quelques mois plus tard, il engage un jeune homme, Fernand Groux, qui s'intégrera très rapidement à la famille Lucier en épousant Claire Lucier, la fille aînée de Léo. Après avoir passé 40 ans derrière le comptoir de la Binerie, Léo décide de prendre sa retraite, sachant très bien que la relève est en place, puisque son gendre Fernand et sa fille Claire ont pris possession du restaurant le 4 août 1978. Le 10 mars 2001, de nouveaux propriétaires font l'acquisition de la Binerie Mont-Royal, mais Fernand et Claire s'assureront que la tradition des recettes secrètes soit respectée. Ces nouveaux propriétaires ne resteront pas très longtemps et passeront le flambeau à Suzanne Touchette et Bernard Deschamps en mars 2022. Finalement, le 17 novembre 2005, Jocelyne et Philippe...
En mars 2022, puis l'article date de 2021.
Oui, oui, oui.
Ah bon?
Non, non, de 2002, excuse-moi. Okay. Pardon, de, non, en mars 2002. Finalement, le 17 novembre 2005, Jocelyne et Philippe Brunet font l'acquisition de la Binerie Mont-Royal et ils en sont toujours les propriétaires depuis maintenant près de 15 ans. Alors, plus que 15 ans, on va aller à 19 ans.
Oui.
La tradition, toujours la tradition. S'il y a une chose dont Philippe et Jocelyne sont fiers, c'est d'avoir su perpétuer la tradition de la Binerie tout en y apportant constamment des améliorations. Moi, j'ai travaillé à Ottawa et à Québec avant de passer 10 ans en France à travailler pour Disney, nous explique M. Brunet. Ma femme et moi cherchions un local pour nous établir à Montréal quand nous avons fait l'acquisition de la Binerie. Nous avons rafraîchi les lieux, changé les comptoirs en érable massif. Nous avons cependant gardé les bonnes vieilles recettes secrètes. Ces recettes sont d'ailleurs notariées, figurez-vous.
Wow. Ouais,
oui.
Ça veut dire quoi, ça?
Notarié, c'est aller chez le notaire et t'enregistre le temps pour pas que personne les copie.
Comme un brevet.
Oui, un genre de protection légale.
Oui.
Depuis, puis aussi, si vous voulez les laisser à quelqu'un, ben, vous êtes
dans le
testament.
C'est pour pouvoir les léguer,
ouais. Ah oui, oui, oui.
Depuis le mois d'octobre 2019, la Binerie Mont-Royal a changé d'adresse. Elle est maintenant au 4167 rue Saint-Denis, mais n'a rien changé à son menu.
Le décor a l'air tellement beau, là.
Oui. Mm-hmm. Nous voulions prendre de l'expansion. Nous avons finalement trouvé un endroit sur la rue Saint-Denis, l'ancien local du restaurant Steak Frites. Nous passons donc de 26 places à 96 places. Ah. Une bonne amélioration. Nous avons ramené tout le matériel de l'ancienne Binerie, dont nos fameux fours pour les fèves au lard. Nous avons fait l'acquisition de nouveaux appareils de cuisine, mais une chose n'a pas changé. Le menu et la qualité de nos mets traditionnels.
Bon, il faudra y aller pour en juger.
Oui. Il faudrait s'organiser une sortie de gang, que j'appelle, moi.
On s'en va à Binerie.
On s'en va à Binerie à midi. Des petites anecdotes sur la Binerie Mont-Royal. Il y a plusieurs scènes d'un film qui ont été tournés
oui,
là.
Ah bien oui, le Matou.
Le Matou,
oui.
Tiré du roman d'Yves Beauchemin et mettant en vedette Guillaume le Métis Vierge, ont été tournés à la Binerie Mont-Royal en 1984.
À l'époque où la Binerie était située sur Mont-Royal.
Sur Mont-Royal, oui. Et un maire de Montréal était un client régulier de la Binerie Mont-Royal,
ah oui?
Le maire Camillien Houd.
Ah, hey, ça date pas d'hier, ça.
Oui, non.
D'avant-hier.
Et lors du déménagement de la Binerie Mont-Royal en octobre 2019, figurez-vous que l'enseigne extérieure originale était trop grosse pour être installée à la nouvelle adresse de la rue Saint-Denis. Bien, ce qu'ils ont fait, ils l'ont accrochée à l'intérieur du restaurant.
Bon, moins. C'est pas perdu.
Oui. On a souvent dit qu'un hockeyeur célèbre était un homme du peuple. Un hockeyeur célèbre, c'est...
Maurice Richard.
Maurice Richard, exactement.
Maurice Richard.
Oui. Difficile d'en douter puisqu'il avait fait de la Binerie un de ses restaurants préférés. Quand on va à la Binerie Mont-Royal, on peut admirer les illustrations d'Edmond-Joseph Massicotte, qui a vécu de 1875 à 1929, nos Canadiens d'autrefois. La Binerie produit 32 tonnes de fèves au lard par année. Elles sont cuites dans d'énormes fours en fonte qu'ils ont récupérés, qui ont déménagé, qui ont suivi.
C'est le secret.
Oui, le secret de la Binerie Mont-Royal.
Et des bonnes bines.
Oui, alors vous laissez voir l'histoire de la Binerie Mont-Royal.
Ah, bonne idée, Serge. Oui.
Alors, j'ai des petites brèves.
OK, on va faire une petite brève musicale.
Absolument.
Serge, vous avez des brèves pour nous.
Oui. L'expression « être gros gens comme devant ».
Ouais, on parle de quel gens, là?
Jean G.E.A.N., le prénom, pas G.E.N.S. Oui. OK, ouais.
J'aurais dit Jance.
Oui. Un peu vieillotte, l'expression est aussi très énigmatique. Elle apparaît en 1678, imaginez-vous, dans une fable de La Fontaine.
Hein, 1678?
Ouais. La litière. On parle de chat, franchement.
Oui, vous êtes dans le thème. Ouais, ouais.
La laitière et le pot au lait.
Oui.
Mais qui est donc ce Jean? Au 17e siècle, à une époque où ce prénom est très répandu, il incarne Monsieur Tout-le-Monde, l'homme du peuple. Le pauvre Jean est alors maltraité dans de nombreuses tournures, aujourd'hui disparues, à l'exception de Jean Foutre, qu'on n'emploie pas tellement ici, c'est plutôt en France. Là. C'est quelqu'un sur qui on ne peut pas compter.
Ah oui?
Ouais.
Un gros Jean comme devant?
Oui, un Jean Foutre.
OK.
Jean Foutre, oui. Si Jean est qualifié de gros, cela se réfère plutôt à son esprit grossier qu'à son physique. C'est un grossier.
Vulgaire, oui. Ouais. Pas gros, de manière. Ouais.
Gros Jean est une sorte d'idiot du village, un benêt un peu lourdeau. Et sachant qu'au 17e siècle, le mot « devant » a le sens « d'auparavant ». L'expression était « gros Jean comme devant » signifie que, quels que soient les efforts fournis, on est revenu à la case départ.
Comme gros auparavant. Gros Jean comme devant, bien, c'est super,
comme,
ça.
Comme auparavant.
On l'utilisait sans trop, connaître nécessairement l'origine.
Mm-hmm.
Malgré qu'il y a des auditeurs érudits qui sont certainement au courant.
Oui.
Une autre histoire
qui va vous intéresser, les addicts de chocolat ici, là. La tablette de chocolat, ça vient d'où? La tablette en tant que telle.
Ça vient de chez Serge.
Oui, c'est chez Serge, oui. Introduit en Europe au 16e siècle, le chocolat a longtemps été uniquement consommé sous forme de boisson. Une pâte de cacao mélangée à de l'eau. Un breuvage réservé à l'élite qu'on achetait chez les apothicaires.
Ah oui, c'était le quick, ça, là.
Comme remède à tous les maux. Et les confiseurs, c'était pour la gourmandise. En 1847, les Fry ont l'idée de mélanger le beurre de cacao du chocolat en poudre, mis au point par le chimiste Conrad van Houten en 1828, et du sucre.
Je la vois, la boîte, le cacao, c'est jaune, puis on peut lire « fry ».
Ils obtiennent alors une pâte qu'il est possible de verser dans des moules rectangulaires. Le chocolat à croquer est né, baptisé d'un nom français, « chocolat délicieux à manger », c'est le nom. On vous vend du chocolat délicieux à manger. Cette tablette granuleuse va révolutionner l'industrie chocolatière. Et l'expression « l'argent n'a pas d'odeur », savez-vous d'où ça vient?
Je l'ai déjà su, mais là, je pense que je vais vous laisser aller. Isabelle ou Mathieu?
J'ai aucune idée.
Non.
Alors, il faut que je retrouve dans mon...
L'argent n'a pas d'odeur. On prend le cash,
oui,
quoi qu'il sente.
Alors, ça se passe dans la Rome antique. Alors, ça a rapport à l'urine.
OK.
OK.
Isabelle n'est pas sûre, là. À Rome, dans l'Antiquité, l'urine vaut de l'or. Vantée pour ses propriétés thérapeutiques et désinfectantes, excusez, mais il faut que je le lise, c'est notamment utilisé en bain de bouche.
Hein? Comme rince-bouche?
C'est ce qu'on nous dit.
Ouais.
Je n'ai pas vérifié, là. Hein?
Mais je sais qu'à un moment donné, il y avait une mode où les gens, certaines personnes buvaient leur urine.
Dans
urine.
Les trucs naturistes, là.
Ouais.
Où on faisait des jeûnes, puis en tout cas. Je ne serrais pas ça. Elle est aussi prisée par les teinturiers qui trempent leur linge dans ce liquide riche en ammoniac. Ça, c'est connu depuis longtemps. Afin de renflouer les caisses de l'Empire, mise à mal par 2 ans de guerre civile, l'empereur Vespasien introduit au 1er siècle une taxe sur les produits des latrines. Pris à partie par son fils Titus, qui juge ce prélèvement avilissant, Vespasien lui met sous le nez le premier argent qu'il perçut de cet impôt et lui demanda s'il sentait mauvais, selon Suétone. Autrement dit, l'argent n'a pas d'odeur. Alors, en plus du proverbe, cet empereur, Vespasien, inventif, nous lèguera des urinoirs publics baptisés en son honneur Vespasienne.
Oui, les Vespasiennes.
Oui. Et savez-vous que ça, c'est un impôt sur l'urine? J'ai encore un petit peu de...
Oui, vous avez un petit 2 minutes.
L'impôt sur la barbe.
L'impôt sur la barbe.
En Russie, à l'époque des tsars. À la fin du 17e siècle, le tsar Pierre le Grand déplore les longues barbes de l'aristocratie moscovite qui jure avec la mode en vigueur dans les cours européennes. Pour en venir à bout, il instaure en 1698 une taxe sur la barbe. Quiconque se laisse pousser le poil au menton doit s'acquitter d'une somme pouvant aller jusqu'à 100 roubles, une somme, je pense, à l'époque assez quand même consistante. En échange, les barbus reçoivent un jeton de bronze frappé de la mention « Dingu Vzali, l'argent a été perçu ». Alors, j'ai payé mon dû, qui leur permet d'échapper aux brigades du tsar, lesquelles n'hésitent pas à raser les réfractaires en public. Alors, on y va.
Wow.
Tiens-toi, on te rase en public.
Mathieu le barbu.
Oui, Mathieu,
qu'est-ce que vous en pensez?
Et savez-vous qu'il y a déjà eu...
Il y a autant s'abstenir.
Il y a déjà eu un impôt sur les portes et les fenêtres.
Oui.
Plus une maison est grande, plus elle est percée d'ouvertures. C'est à partir de cette idée simple qu'est instauré l'impôt sur les portes et fenêtres, appliqué en France par le Directoire en 1798. Alors, c'était importé en Angleterre et ça conduit, hélas, à la prolifération d'habitations confinées et insalubres. Parce que vous ne vouliez pas payer de gros impôts, là, vous calfeutiez vos portes, vos fenêtres. Et cette contribution a rapidement surnommé « taxe sur l'air et la lumière », cause de graves fléaux sanitaires, puisque rachitisme et tuberculose prospèrent dans les environnements obscurs et mal élevés. Mal aérés, pardon. Dieu donne l'air aux hommes, la loi le leur vend. Fusille Victor Hugo dans les Misérables, son roman publié en 1862.
Taxe sur l'air et la lumière.
Et ça a perturbé en France jusqu'en 1926.
Oui, ça a perturbé.
Perduré, oui.
Merci Serge, merci Isabelle.
Je vais faire mes mots ce matin-là.
On vous aime.